Et maintenant, place au théâtre.
Ce deuxième épisode débute à Paris, sous l'occupation nazie. Nous sommes le 30 juin 1943, et ce matin-là...
État français, radiodiffusion nationale.
Le speaker de Radio Paris a un anniversaire à fêter.
Pour célébrer le tricentenaire de l'illustre théâtre, nul n'était mieux qualifié que M. Jean-Louis Vaudoyer, administrateur de la Maison de Molière.
C'est en effet le 30 juin 1643 que le jeune Molière, alors âgé de 21 ans, et qui s'appelait encore Jean-Baptiste Poquelin, signait son premier contrat d'acteur en fondant avec Madeleine Béjart et d'autres amis et camarades l'illustre théâtre, lequel n'eut que 2 ans d'existence et finit par un échec.
C'est donc sous la férule de la Wehrmacht que les Parisiens ont dû célébrer le tricentenaire de l'illustre théâtre. La troupe de Molière, prisonnière des troupes allemandes. Triste sort. Jean-Louis Vaudoyer, lui, le directeur pétainiste de la Comédie française, s'en est très bien accommodé. Et pourtant, cette troupe de Molière fut une avant-garde républicaine. On y défendait un goût prononcé pour la liberté, pour l'égalité, notamment salariale, et pour une fraternité comédienne. Cette première troupe, fondée en 1643, raconte l'aventure audacieuse d'une poignée de jeunes saltimbanques en route pour la gloire éternelle.
Alors qu'est-ce qu'on fait ?
Nous allons parler du théâtre.
Au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit.
Que l'on commence !
Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Molière, le chien et le loup.
Molière, vous avez su infiniment nous plaire.
Deuxième épisode, l'esprit de troupe. L'histoire commence à Paris, au début de l'été, en l'an de grâce 1643. Nous sommes rue de la Perle, chez la famille Béjart. Un notaire s'est déplacé à leur domicile pour la signature d'un acte. Molière a 21 ans et il se trouve dans cette maison en compagnie de 9 personnes.
Germain Clairin, Jean-Baptiste Poquelin, Joseph Béjart, Nicolas Bonenfant.
Chaud la soupe !
Georges Pinel, Madeleine Béjart, Catherine Desurlis et Geneviève Béjart. Lesquels ont fait et accordé volontairement entre eux les articles qui en suivent, sous lesquels ils s'unissent et se lient ensemble pour l'exercice de la comédie, afin de conservation de leur troupe sous le nom de l'illustre théâtre.
Buvez !
Fait et passé à Paris en la présence de Marie Hervé, veuve de feu Joseph Béjart, vivant bourgeois de Paris, mère des 10 Béjart. En la maison de la dite veuve Béjart, devant déclarer l'an 1643, le 30e et dernier jour de juin après-midi. Et tous ont signé.
Le 30 juin 1643 est né l'illustre théâtre. 6 hommes, 4 femmes.
À l'illustre théâtre.
À l'illustre théâtre.
Comme on va bien s'amuser.
Et sachez qu'au XVIIe siècle, le mot théâtre signifie troupe.
Et à la tête de ce bataillon, il y a surtout Madeleine Béjart, qui est déjà connue comme femme instruite, comme femme de salon, qui tient salon.
Jacqueline Razgonikoff est bibliothécaire de la Comédie française.
Elle doit avoir une très belle voix, car elle est reconnue comme une grande tragédienne. Donc, à mon avis, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles Jean-Baptiste s'intéresse beaucoup au théâtre.
Est-ce qu'on sait à quoi ressemble la vie de cette jeune troupe en 1643, 1644, à quoi ressemble la vie quotidienne de ces 10 comédiens, comédiennes ?
Ils vivent pratiquement ensemble. Ils louent successivement 2 jeux de paume, le jeu de paume des Métayers sur la rive gauche, puis le jeu de paume de la Croix-Noire, rive droite,
à Paris,
près de Saint-Paul. Les premiers mois de leur troupe sont assez réussis, c'est-à-dire qu'ils ont un certain succès. Bien entendu, ils ne jouent que la tragédie ou la grande comédie. C'est-à-dire Tristan l'Hermite, Rotrou, Corneille, comédie de Rotrou qui sont à peine des comédies.
«
Qu'est-ce que vous avez lu de Retrou?
Eh bien, je me pose la même question depuis le commencement de notre entretien.
Votre mémoire vous fait défaut.
Non, non, je crains plutôt que ce ne soit ma culture.
Et connaissez-vous sa meilleure tragédie? Le véritable Saint-Genet?
Non.
Les sosies, la sœur,
non,
les comédies?
Non, non.
Bien, alors il vous reste donc à lire 17 tragicomédies.
Oh, 17.
7 tragédies, 11 comédies, et qui ne sont pour la plupart que des tragicomédies déguisées.
Eh bien, dites donc, j'en ai l'ouvrage.
Au XVIIe siècle, la tragédie est une pièce en 5 actes qui met en scène des héros extraordinaires, comme un prince ou un roi, qui doivent affronter un péril de mort et qui souvent se dénouent par un drame.
Jamais sommeil n'enchantera mes peines que ton perfide sang, épuisé de tes veines.
La comédie, quant à elle, met en scène des gens ordinaires, comme des marchands, dont l'action est fondée sur une série d'obstacles contre les amours de jeunes gens et qui s'achèvent systématiquement par le mariage.
Consentez-y, madame. Une flamme si belle doit, pour votre intérêt, demeurer immortelle.
Ce sont les deux grands types de pièces qu'on joue au XVIIe siècle. Mais quelle était la place du théâtre à l'époque?
Au XVIIe siècle, c'est vraiment le moment où le théâtre s'impose.
Georges Forestier est historien et biographe de Molière.
Il faut savoir que jusqu'en 1630, il n'y a aucun théâtre permanent à Paris. Il y a une salle qui est louée aux troupes de passage, mais il n'y a pas de théâtre permanent. C'est Richelieu qui l'instaure. Pour quelle raison? Parce que le théâtre jouit d'une très mauvaise réputation sur le plan social à cause de l'hostilité de l'Église vis-à-vis d'un art qui est concurrent de la parole divine, et puisqu'il y a des gens qui montent sur des tréteaux pour raconter des fictions.
Et dégager une morale aussi.
Voilà, dégager une morale, mais morale et fiction qui donne à aimer l'amour humain. Alors que ce que l'on doit faire lorsqu'on est sur une estrade, sur un échafaud, comme on disait au XVIIe siècle, c'est proférer des paroles qui donnent à aimer uniquement l'amour divin. Et donc, c'est ça qui explique l'hostilité d'une grande partie de l'Église. Mais il y a une partie de l'Église aussi qui, d'abord, en fait un instrument de pédagogie, ce sont les jésuites, et puis apparaissent des comédiens professionnels qui sont, depuis le Moyen-Âge, il y a des comédiens qui font les marchés, qui font des farces sur des tréteaux. Et ce sont les mêmes qui vont se mettre à faire du théâtre inspiré de l'Antiquité. Et il se trouve qu'en France, au milieu du XVIe siècle, quand apparaît ce qu'on appelle aujourd'hui le théâtre moderne, c'est-à-dire en fait le théâtre imité du théâtre antique, pour la tragédie, et pour la comédie, au moment où renaît le terme même de tragédie et de comédie, eh bien ce sont les comédiens qui faisaient des tréteaux qui se mettent à voir ce que font les jeunes étudiants de la Montagne Sainte-Geneviève, du Quartier Latin, qui se mettent à déclamer avec une déclamation rhétorique extrêmement prononcée. Ils sont fascinés par le fait que la cour, tous les jeunes gens de la Montagne Sainte-Geneviève applaudissent ce nouveau genre de théâtre qui s'appelle la tragédie et la comédie. Et ils se mettent à faire pareil. Et donc, le théâtre, à ce moment-là, il est donc partagé entre une hostilité d'une partie de l'Église, une bienveillance d'une petite partie de l'Église qui va aller croissant, des troupes de comédiens qui s'emparent des pièces qui sont écrites par les lettrés de l'époque et qui se répandent à travers l'Europe. Il y a les comédiens italiens, les troupes de ce qu'on va appeler la commedia dell'arte, qui à l'origine veut dire les comédiens professionnels, tout simplement, dell'arte, et ça, arte au sens d'artisan, de spécialiste. Hein. Et donc, qui se répandent à travers toute l'Europe, des troupes françaises qui se constituent, et au XVIIe siècle, dans la première moitié du XVIIe, il y a plus d'une centaine de troupes de comédiens professionnels qui circulent à travers la France.
Je suis la terreur de l'univers, l'ami de la famille.
Tu avais vu d'Alain cette centre éléphique dans ce chariot d'Hurluberlu?
Ce sont des malades ou des fous?
Oh, souvent pire, mon cher, passe encore à Paris, où il y a deux ou trois troupes acceptables, mais en province, ces estrillons sont plus souvent des débauchés ou des escrocs réduits à la misère par ce métier d'excommunié.
Donc le statut, il est ambigu, puisque dans certaines diocèses, dans certaines paroisses, les prêtres refusent d'enterrer les comédiens parce que le droit canon, c'est-à-dire le droit religieux depuis instauré, mis au point définitivement au Moyen-Âge, considère que les comédiens font un métier infâme, infâme au sens propre étymologique du terme, c'est-à-dire infama, c'est-à-dire sans réputation. Ils ne peuvent pas témoigner dans des procès. Et dès qu'on est chez un curé rigoriste, évidemment, il applique le droit canon. Et donc, on ne peut pas les enterrer, ils sont excommuniés. Mais dans d'autres paroisses, ils ne sont pas du tout excommuniés. S'ils abjurent, s'ils reçoivent l'extrême-onction, ils sont enterrés en terre d'église. Donc, vous voyez, il y a un statut extrêmement particulier. Jusqu'au moment où il y a la chance que Richelieu, qui devient principal ministre de Louis XIII en 1623 ou 24, eh bien, était un grand amateur de théâtre. Et il va donc favoriser les troupes. C'est lui qui va obliger les propriétaires de l'hôtel de Bourgogne, qui était une confrérie religieuse créée un siècle plus tôt pour faire des passions et des mystères, ce genre du Moyen-Âge avec le petit Jésus, avec les saints, etc. Je schématise, hein, mais c'est lui qui va les obliger à se transformer en simples bailleurs et à louer leur théâtre à la troupe de ceux qui avaient réussi à obtenir le titre de comédien du roi et qu'on va appeler les comédiennes de l'hôtel de Bourgogne. Et donc, une autre troupe de comédiens ambulants de province vient s'installer à Paris, s'installe dans un jeu de pommes, c'est rue Vieille du Temple, c'est le jeu de pommes du Marais, et ça devient le théâtre du Marais, là où Corneille va créer tous ses premiers succès, dans le Cid notamment. Et donc, il y a deux théâtres institutionnalisés, donc à partir de 1630, et voilà que quelques années plus tard, Richelieu couronne les choses un an ou deux avant sa mort, en 1641, en faisant promulguer par Louis XIII une ordonnance de réhabilitation du métier de comédien. Disant que si les comédiens sont honnêtes eux-mêmes et s'ils jouent des pièces honnêtes, c'est-à-dire plus des farces où on parle du mari, de la femme et de l'amant, etc., etc., eh bien, ils ont droit à être, en gros, comme on dit aujourd'hui, des citoyens respectables dans le royaume de France.
Voici maintenant ta réhabilitation. Je veux dire la réhabilitation du métier de comédien, jusque-là juridiquement tenu pour infâme.
Et en cas que les dix comédiens règlent tellement les actions du théâtre qu'elles soient du tout exemple d'impureté, nous voulons que leur exercice, qui peut innocemment divertir nos peuples de diverses occupations mauvaises, ne puisse leur être imputé à blâme, ni préjudice à leur réputation dans le commerce public. Ce que nous faisons, afin que le désir qu'ils auront d'éviter le reproche qu'on leur a fait jusqu'ici leur donne autant de sujets de se contenir dans les termes de leur devoir des représentations qu'ils feront, que la crainte des peines qui leur seraient inévitables s'ils contrevenaient à la présente déclaration.
La radiodiffusion française vous a présenté Prestige du théâtre, une émission de la Société d'histoire du théâtre.
Lorsque Louis XIII, Georges Forestier, prend cette ordonnance, donc en 1641, sur conseil de Richelieu, c'est quoi l'ambition politique ? Est-ce que c'est aussi une manière de faire diffuser une langue, le français, ou pas ?
C'était que la France soit la première puissance d'Europe. Que la France prenne la préséance sur le plan culturel et artistique à l'Italie et la préséance militaire et économique vis-à-vis de l'Espagne. Et ces deux pays avaient des troupes de comédiens, avaient le théâtre joué un rôle extrêmement important. Donc il y avait un véritable enjeu politico-culturel dans cette promotion du théâtre, cette régularisation du théâtre et cet encouragement des troupes. Et à la fin des années 30, le roi Louis XIII a une deuxième troupe de comédiens, qui est la troupe des comédiens italiens, parce qu'à partir de 1637, il va y avoir quasiment en permanence à Paris une troupe de comédiens italiens.
Et cantando d'amor va, 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 d'amor va, d'amor va. D'amour, d'amour va, do, ré, mi, fa, sol, la.
Revenons à cette troupe de l'illustre théâtre. Molière et Madeleine Béjart ont le toupet de vouloir se lancer à Paris sans crainte d'affronter la concurrence féroce des deux grandes troupes parisiennes qui se partagent un public pas si nombreux. L'illustre théâtre s'installe d'abord rive gauche, dans un jeu de paume, celui des métayers.
Quelles sont les dimensions de votre salle ?
Comme tous les jeux de paume, c'est réglementaire. 30 mètres de long, 10 mètres de large.
La hauteur ?
100 mètres.
En gros, une salle de tennis qui nécessite des travaux d'aménagement, et donc des frais.
Et moi je dis que nous faisons une erreur de monter une tragédie. Une bonne comédie aurait si bien fait notre affaire, tandis qu'une mauvaise tragédie.
Oh, écoute, maman, va te coucher.
Oh, mais j'ai pas sommeil.
Alors tais-toi.
Bah, pourquoi me tairais-je ? Bah, ça, c'est la meilleure.
Parce que tu me fatigues. Et vous deux, pas trop fatigués ?
C'est prêt.
Tout est prêt, et la jeune troupe de Molière s'apprête à se lancer, quand soudain, en janvier 1644, le destin s'en mêle.
C'est peut-être le théâtre qui brûle.
Tu vois quelque chose?
C'est vers le marais.
Ce n'était pas notre jeu de paume qui avait été dévasté par l'incendie, mais le théâtre du Marais, notre concurrent.
Une aubaine. Madeleine Béjart et ses compagnons voient disparaître un concurrent. Et de fait, durant les premiers mois, leur salle est pleine. L'affaire est lancée, l'argent rentre dans les caisses. Cela dit, à partir du mois d'octobre 1644, le théâtre du Marais, rénové, rouvre ses portes avec grand succès. Aussitôt, l'illustre théâtre est à la peine.
Et qu'est-ce que vous vous imaginiez? Dès que le Marais a été reconstruit, il ne fallait pas être grand clerc pour deviner la suite.
Avec un public moins nombreux, la troupe s'embourbe dans les dettes et on frappe à la porte.
Commandement est fait au sieur Poquelin dit Molière, sous peine des rigueurs prévues par la loi. Commandement est fait, sieur Poquelin dit Molière. Commandement.
Dehors, huissier.
Au mois d'août 1645, dans l'incapacité de rembourser ses créanciers, Molière est jeté 2 jours en prison au Châtelet.
Oh, il est mignon.
Bonjour, petit.
Jusqu'à ce que son père, bienveillant, éponge les impayés.
Poquelin, dehors.
Mon père, je suis redevable à M. Aubry de mon élargissement du Châtelet. Pour cela, il a donné sa caution que les comédiens de l'illustre théâtre verseront 40 livres par semaine pendant 2 mois.
Cela me fut un plaisir, Monsieur Poquelin. Seulement, voilà, Monsieur Poquelin, je ne suis guère sûr que ces 4 messieurs et ces 3 dames puissent s'acquitter des versements promis.
Ne craignez rien, Monsieur Aubry. Je prends l'engagement formel de vous rembourser au cas où mon fils ne pourrait le faire.
Ah bon, je suis rassuré.
Ruiné, 2 ans après sa création, l'illustre théâtre est dissous. Mais il n'est pas question pour Molière et Madeleine d'abandonner la scène.
Donc, on s'esbigne.
Quoi ?
On s'esbigne, petit. Enfin, on fait les mâles, quoi. On quitte Paris.
Mais pour aller où ?
Je ne sais pas, ma Rose.
Direction la province, où ils ont rendez-vous à Nantes, chez une vieille connaissance de Madeleine Béjart.
Nantes, Loire inférieure, 397 km de Paris. Tiens, voilà le document.
23 avril 1648. Ce jour est venu au bureau le sieur Morlière, l'un des comédiens de la troupe du sieur Dufresne, qui a supplié très humblement messieurs de leur permettre de monter sur le théâtre pour y représenter leur comédie.
Madeleine !
Ils sont accueillis dans la troupe de Charles Dufresne, qui est une des meilleures troupes de l'époque et qui est la troupe du duc d'Épernon. Il faut savoir que chaque troupe avait un protecteur, que sans protecteur, les troupes se réduisaient à être celles du roman comique de Scarron et celles que Ariane Mnouchkine a montrées dans son film. Il fallait, pour qu'une troupe réussisse vraiment en province, qu'elle ait un riche protecteur.
Molière et ses compagnons intègrent la troupe de Charles Dufresne sous la protection du duc d'Épernon, gouverneur de Guyenne.
Par ailleurs, c'est un des plus épouvantables seigneurs du royaume. Il est réputé pour sa morgue, son indifférence, sa cruauté, etc. Mais probablement qu'avec ses comédiens, il avait un rapport qui fait qu'ils sont restés pendant un certain temps fidèles.
C'est ainsi que Molière et ses joyeux mercenaires s'embarquent sur les routes du sud de la France, direction le Languedoc, un voyage qui a fait long feu, jusqu'en 1958.
Au jour et aux lumières.
Madame Dussane, sociétaire honoraire de la Comédie Française, professeur au Conservatoire d'art dramatique.
Mes chers amis, je réponds aujourd'hui à une correspondante, une de nos amies du dimanche, Madame Georgette Cousin. Madame Cousin m'écrit en substance, pendant nos vacances, nous étions en auto, dans le midi, dans le Languedoc, et Une panne d'auto nous a immobilisés à quelques kilomètres de Pézenas, qui est dans l'Hérault. Nous avons dû rester 2 jours dans cette charmante ville pour attendre qu'on répare notre voiture, et nous avons eu la joie d'apprendre que Molière y avait joué, qu'il s'y rencontrait avec des amis, etc., etc. À quelle occasion, me demande Madame Georgette Cousin, Molière s'est-il trouvé à Pézenas?
Tout simplement parce que le Languedoc, c'est la province de Gaston d'Orléans, qui n'y met jamais les pieds, il n'y a jamais mis les pieds, c'est pas à quoi ça ressemble, mais il a 3 lieutenants généraux, dont le plus puissant et le plus remarquable, qui est le comte d'Aubijoux, et qui est, donc, le Languedoc est divisé en 3 parties, le Haut-Languedoc, le Bas-Languedoc et le Vivarais, et chacun de ces 3 lieutenants de Gaston d'Orléans occupe une partie. Et le gouverneur, chaque année, doit ouvrir des états généraux dans lequel on vote des subventions à droite à gauche, et surtout on vote ce qu'on appelle le don gratuit au roi. En fait, c'est l'impôt réclamé par le roi, mais on appelle ça toujours le don gratuit au roi. Et pendant que les députés du tiers-état, du clergé et de la noblesse sont réunis, eh bien, ils s'ennuient dans les villes où ces députés sont réunis pendant 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines de session. Qu'est-ce qu'on fait? On va au théâtre.
Et c'est pour se divertir.
Voilà.
Et le comte d'Aubijoux, sous l'égide du duc d'Épernon, décide d'employer cette troupe de comédiens parisiens à l'occasion des états généraux du Languedoc.
Le jeudi 4 novembre, sur le sommet de la tourelle de la maison des commandeurs de Malte, dont la façade a été revêtue dès la veille de tapis lamés, de tapis rapportés d'Orient, et hisser l'étendard blanc et noir de Beauséon. C'est le signal de l'ouverture des états. Une troupe de violons égaye toute la ville qui se prépare à la grande journée du dimanche. Dans les rues, les maisons sont tendues de tapisseries précieuses. Partout, on prépare des corbeilles de fleurs effeuillées. Le dimanche, la foule se presse au balcon de la rue des Orfèvres, de la foire, du château, jonchée de ses fleurs effeuillées, pour voir passer la procession du Saint-Sacrement. Les députés du tiers-état, les illustres, noblesse et clergé, défilent en grand apparat. L'archevêque de Toulouse, le prince de Conti et les commissaires du roi ferment la marche.
Et c'est à partir de ce moment-là que, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il leur fait obtenir une sorte d'exclusivité. Ils jouent devant les députés entrent gratuitement au théâtre, mais en échange, ils ont une subvention votée par les États. Voilà. Et évidemment, les habitants de Pézenas ou de Montpellier qui veulent y aller, ils payent leur place. Voilà. Et donc, c'est une manne extraordinaire. En quelques années, ils vont rembourser leurs dettes accumulées à cause de l'épisode de l'illustre théâtre.
Messieurs, nous sommes à Monsieur de Conti. Il nous envoie vous chercher et vous attend au château.
Alors, jusqu'en 1651, ils sont sous la protection du duc d'Épernon, on l'a dit.
C'est cela.
Mais le duc d'Épernon, qui était gouverneur militaire de la Guyenne, quitte la région, sont dépourvus de protecteurs, mais ils vont réussir à se placer sous la protection d'un autre prince, le prince de Conti, et là encore, ce n'est pas n'importe qui. Et ce prince de Conti, dans un premier temps, veut se divertir.
Monseigneur, Monsieur Molière est là.
Ce que l'on sait, c'est que de toute façon, prince de Conti, qui est donc le frère cadet du Grand Condé, hein, il ne faut pas l'oublier, c'est le 3e personnage de France, c'est le gouverneur du Languedoc. Et il a une maîtresse qui est Madame de Calvimont, qui souhaite avoir des comédiens. Donc le prince de Conti s'adresse à son secrétaire, son homme à tout faire, qui est le Daniel de Connac, qui deviendra évêque d'Aix, et qui lui conseille la troupe de Molière, ayant entendu parler de la troupe de Molière. Malheureusement, le prince de Conti a déjà pris langue avec une autre troupe, qui est la troupe de Cormier, qui est aussi une troupe qui a une certaine
réputation.
Donc, on fait jouer la troupe de Cormier. Bon, tout le monde trouve que c'est bien. On fait jouer la troupe de Molière. Les avis sont partagés. Mais finalement, c'est Molière qui l'emporte. Et donc Molière devient la troupe de son Altesse, le prince de Conti, et ça va durer quelques années.
Cette tournée en province, qui va durer 12 ans, a donc permis à Molière et aux siens d'accumuler un pécule. Mais ce fut surtout l'épopée d'une riche expérience.
Ces années de province sont aussi des années où Molière fait l'expérience, effectivement, de ce qu'on appelait à l'époque les troupes de campagne, en fait, les comédiens de campagne, c'est-à-dire des troupes itinérantes, vraiment le plus vieux sens du métier, les gens qui vont de ville en ville se produire.
L'historien Martial Poisson.
Et à la fois, la concurrence est beaucoup moins rude qu'à Paris, où on a les meilleures troupes d'excellence, et en même temps, elle est beaucoup plus diffuse. Donc, c'est aussi des années où Molière va consolider de puissants réseaux, et on voit bien dans la circulation même de sa troupe, la façon dont il va toujours essayer chercher à la fois l'appui des municipalités. Les villes sont de grandes pourvoyeuses de spectacles. Des états généraux, ces réunions où chaque année, à l'occasion notamment du carnaval, de grands dignitaires, de grands notables de province se retrouvent pour festoyer dans les capitales de région, et également l'appui des princes, dont en particulier une grande partie de frondeurs, mais pas seulement. Et donc là, on voit bien que Molière a toujours cherché à mutualiser ses soutiens, à ne jamais mettre tous les intérêts dans le même panier, et à pouvoir rebondir dans les cas assez nombreux, finalement, où tel ou tel protecteur disparaîtrait du paysage politique rapidement, ce qui s'est produit pour de nombreux dignitaires de la Fronde.
Allons-y. Allons.
Molière et ses comédiens ont donc sillonné les routes de province, et plus particulièrement celles du Sud, entre 1646 et 1658. 12 ans donc à vivre ensemble et à se frotter au public. Mais avec quel bilan du point de vue de l'apprentissage ?
Il a appris le langage de la province. Nous savons, par plusieurs de ses pièces, qu'il a mis en scène différents languedociens, que ce soit Monsieur de Pourceaugnac ou Madame la Comtesse d'Escarbagnas. Les noms parlent d'eux-mêmes. Tous ces langages-là, les langages paysans, il les a appris.
Les accents, les patois.
Les accents, les patois, qu'il manie assez bien, d'ailleurs.
Mm-hmm. Ah, tu es ici. Et elle a fini de trouver après avoir fait tant de passes. Mais podes-tu, scélérat? Podes-tu soutenir ma vie?
Et puis, il a appris aussi cette vie des provinciaux. Il met en scène des provinciaux. Dès le début, ce sont des provinciaux. L'étourdi ou le dépit amoureux, qui sont ces deux grandes premières pièces, l'étourdi créé à Lyon, le dépit amoureux créé à Béziers, sont des pièces qui se passent en province. D'ailleurs, l'école des femmes aussi.
Même les précieuses ridicules sont des provinciales.
Alors que ce sont des pecs provinciales.
Mmh. Oui, bien sûr, bien sûr.
Pecs provinciales. Lorsqu'on imagine le décor de ces pièces, on sait, on parle du cours, on parle de la grand place, on parle de l'hôtel. Donc, ce sont des institutions qui sont communes à toutes ces grandes villes. Donc, il a absorber, je dirais, l'atmosphère de ces grandes villes qu'il a traversées et où il a joué.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, les premières pièces parisiennes de Molière vont donc caricaturer ces provinciales, et la cour parisienne va s'en régaler.
Mais
aussi.
C'est évident, il ne peut pas, du premier coup, critiquer la cour. C'est un excellent courtisan, il ne faut pas oublier. Il est très intelligent. Et les premières pièces qu'il va donner à Paris sont des pièces qui concernent la province. Donc on va pouvoir rire des provinciaux. Les Précieuses Ridicules, c'est l'exemple excellent. Mais les deux premières pièces qu'il va jouer avant Les Précieuses Ridicules, c'est quand même L'Étourdi et le Dépit Amoureux.
Musique. L'Étourdi ou Les Contretemps, comédie de Molière. Si le titre est mauvais, nous le changerons.
Mais non, il est excellent.
Mais les personnages. Lélie, fils de Pandolphe. Célie, esclave de Truffaldin. Mascarille, valet de Lélie. Hippolyte, fille d'Anselme. Anselme, père d'Hippolyte. Truffaldin, vieillard. Pandolphe, fils de famille. Andrés, cru égyptien. Ergast, ami de Mascarille. Un courrier et une troupe de masques. Non, deux troupes de masques. La scène est à Messine. Acte 1, scène 1. Lélie. Eh bien, Léandre, eh bien, il faudra contester. Nous verrons de nous deux.
Qui pourra l'emporter ?
Qui pourra l'emporter ? Ce préambule est à mettre au cabinet.
Mais non !
Mais le temps m'a manqué.
Il est parti. Acte 1. Acte 1, scène 2.
Je pense que ce qu'il a appris, c'est à écrire des pièces. Après, qu'est-ce qu'il a appris en termes de jeu ? Je ne crois pas qu'il ait beaucoup progressé de ce point de vue-là, au sens où il avait déjà vu les comédiens italiens à Paris, qui vont l'influencer quelques années plus tard. Il les croise en province, il croise d'autres troupes, mais en revanche, il apprend à écrire des pièces parce que quand vous avez plusieurs dizaines de troupes qui se partagent le sud de la France, dont trois ou quatre qui sont de bonne réputation, et que vous vous trouvez dans une grande ville, par exemple, comme Montpellier ou comme Lyon, vous avez deux ou trois jeux de pommes qui servent exclusivement au théâtre, ou quasiment exclusivement au théâtre, que vous êtes en concurrence avec une troupe de campagne qui a le même répertoire que vous, c'est-à-dire Rotrou, Corneille, Tristan l'Hermite, les célébrités du temps. Bon.
Oui, parce qu'en fait, les élites locales, elles veulent qu'on joue ce qu'on joue à Paris.
Ah, exactement. Alors, dans le sud-ouest, il y a du théâtre en langue occitane, hein, mais les élites locales, quand elles voient ces troupes-là qui sillonnent la France, ne jouent que en français.
Elles veulent les pièces de Paris.
Et oui, mais ce qui aussi implique que le public de Molière est un public d'élite, c'est-à-dire de bourgeois et de noblesse, etc., qui comprennent le français. Parce que les premières lettres de Racine, quand il part à Uzès, racontent que eh bien, le petit peuple il ne parle qu'occitan. Et il a du mal à se faire comprendre. Heureusement que Racine était très doué, il avait étudié le latin, bien sûr, mais l'italien et l'espagnol, il arrivait du coup à comprendre l'occitan, mais sinon, voilà. Et donc du coup, ce public-là, il ne vient que pour ces pièces de Paris, et il les connaît toutes, ces pièces de Paris, même si, dès qu'il y a une nouveauté à Paris, dès qu'elle publiée en librairie, hop, on achète la pièce à Paris, on se la fait envoyer, et on la joue. Du coup, toutes les troupes ont le même répertoire. Et comment se distinguer une troupe à l'autre ? Eh bien, se développe l'idée de le phénomène de la petite pièce, ce qu'on appelle au XVIIe siècle la petite farce. On appelle ça une farce sans que ça ait lieu, le moindre lien avec la farce du Moyen-Âge, le mari cocu, la femme légère et l'amant qui est souvent un prêtre. Non, farce veut dire petite comédie en un acte, souvent en prose. Et on ajoute, enfin, quand on a la chance d'avoir une petite plume dans la troupe, eh bien, le type, il écrit, il broche une petite pièce, souvent inspirée de modèles italiens, qu'ils ont de Canova, parce qu'ils croisent souvent les troupes italiennes, etc. Et c'est comme ça que Molière commence à écrire des petites comédies. On a des titres qui nous sont restés. On a deux manuscrits retrouvés au XVIIIe siècle, publiés au XIXe siècle, l'un qui s'appelle « Le médecin volant », l'autre qui s'appelle « La jalousie du barbouillé ».
Moi, je préfère « La jalousie du barbouillé ».
C'est la nuit, une nuit à l'italienne propice aux méprises. Le barbouillé est allé saouler au bistrot du coin, Angélique est au bal. Le barbouillé qui ne soupçonne rien de la fugue de sa femme rentre chez lui et quand Angélique à son tour revient, elle trouve la porte fermée au verrou.
Si tu ne m'ouvres, je m'en vais me tuer devant la porte. Mes parents, qui sans doute viendront ici auparavant de se coucher pour savoir si nous sommes bien ensemble, me trouveront morte et tu seras pendue.
La bonne bête.
Avec ces deux pièces-là, avec d'autres textes, la troupe disposée comme ça de 7, 8, 10, peut-être, ou 12 petites pièces que Molière avait commencé à écrire. Et donc c'est comme ça, en fait, la province, il se fait la main avec ces petites pièces qui permettent de se distinguer
auteur.
De la troupe concurrente.
Il devient dramaturge.
Il devient auteur. Sur les centaines de troupes qui sillonnaient la France, il y avait sûrement de divers ordres, comme aujourd'hui, sur les centaines de cirques qui se baladent tous les étés à travers la France. Vous avez le petit cirque avec un singe et un dromadaire, et puis le grand cirque Pindare avec... Bon. Et donc, là, c'était pareil. Vous aviez quelques troupes qui étaient... comme la troupe du duc d'Épernon et quelques autres. Et ces troupes, quand elles se déplacent en coche ou... encore mieux, en coche d'eau, c'est encore plus confortable de se faire, lorsqu'on remonte la vallée du Rhône, ou lorsqu'on remonte la Garonne, enfin, tous les endroits navigables, on prenait le coche d'eau, bien sûr.
Nous sommes avec Molière en ce moment, et avec toute la troupe, en bateau sur le Rhône. Nous venons de quitter Lyon, nous descendons le fleuve par une belle journée d'automne.
Les bateaux qui faisaient le service, comment étaient-ils ?
Il y avait le coche d'eau, ou galiotte, c'était des grands bateaux plats, des bachots. Mais on trouvait aussi des bateaux plus confortables qui pouvaient transporter une vingtaine de personnes avec leurs bagages.
Et on sait qu'on a des contrats, on passe des contrats avec les voituriers pour transporter, mais quelquefois, il y a plusieurs quintaux
de matériel, de costumes,
etc. C'est pas du tout... Alors, on s'est fait cette idée-là par le fait qu'il y avait effectivement quelques troupes qui étaient très pauvres, comme encore une fois, comme aujourd'hui, vous avez tous les niveaux. Mais par le fait qu'il y a un roman qui a eu un succès considérable à l'époque, qui est le roman comique de Scarron. Roman comique, ça veut dire roman des comédiens. Oui. C'est pas qu'il est particulièrement rigolo, même s'il y a des passages très rigolos, puisque Scarron est un auteur burlesque, et qui montre l'arrivée d'une charrette avec trois comédiens qui marchent à pied.
Mesdames et messieurs, patron, jeune ou du vieux, voici Polichinelle, mesdames et demoiselles.
La troupe comique était composée de Destin, de l'Olive et de la Rancune, qui avaient chacun un valet, prétendant à devenir un jour comédien en chef. Mademoiselle de l'Étoile et la fille de Mademoiselle de la Caverne récitaient les premiers rôles. Ils avaient de plus un poète, ou plutôt un auteur, car toutes les boutiques d'épiciers du royaume étaient pleines de ses œuvres, tant en vers qu'en prose. Ce bel esprit s'était donné à la troupe quasi malgré elle.
Et ensuite, l'un des plus merveilleux romans du XIXe siècle, Le Capitaine Fracasse de Théophile Gautier, qui s'inspire évidemment de ce roman de Scarron.
Je veux l'écrire.
Oui.
Un grand drame.
Un grand drame.
Comique.
Comique.
Des rôles magnifiques pour tous.
Pour nous tous.
Parchume, ancré et... Plus crier, vite.
Parchemin, ancré, plus le crier.
Vite. Acre
et par crier.
Achivant, plus poudrier.
Parchemin, ancré, plume.
Bravo. Titre.
Les titres.
Je ne me souviens plus.
Sa vie en dernier, on trouvera.
Acte 1, point à la ligne.
Le Capitaine Fracasse va en rajouter dans le misérabilisme, enfin, alors ce sera le misérabilisme romantique, hein, et donc va nous montrer des comédiens encore plus faméliques, etc. Mais ce n'est pas du tout ça. La vie qu'a menée Molière dans cette troupe du duc d'Épernon, l'une des plus réputée troupe de France. Et donc, cette troupe-là, elle vit extrêmement confortablement.
C'est une vie de nanti.
Voilà, tout à fait. Tout
assez
à fait.
Riche.
Mais oui, bien sûr.
C'est des grands privilèges, en vérité.
Exactement. Mm-hmm. Ils font partie des gens riches. Ne parlons pas de ce qui va se passer après à Paris.
Paris, nous allons vite y revenir. Mais avant, il reste un aspect à aborder de l'apprentissage de Molière durant ses 12 années en province.
Avec ta permission, je reprends la troupe.
Vive Jean-Baptiste!
Mais qu'est-ce que tu vas faire, mon pauvre petit?
Ce qu'on fait toujours au théâtre, des miracles.
Molière va véritablement apprendre le métier de directeur de troupe et il l'apprend tellement vite qu'assez rapidement, il prend l'ascendant sur la troupe et il devient le véritable chef de la troupe de Molière Dufresne. Et il fait preuve, il s'illustre très tôt. Il y a de nombreux témoignages à ce sujet de gens qui ont collaboré avec lui sur le long terme, sur les qualités de charisme, sur le fait qu'il a une voix qui en impose, qu'il a une autorité naturelle, qu'il est capable de, en termes modernes, manager sa troupe, c'est-à-dire donner du sens en fait à ce qu'elle est en train de faire. Je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement passionné et qui a une espèce de passion communicative et dévorante et qui permet à ses collaborateurs artistiques de donner le meilleur d'eux-mêmes sans presque s'en rendre compte. Et le deuxième aspect qui justifie cette position dominante, c'est de grandes qualités humaines et relationnelles, à tel point que, et ça se retrouvera dans la deuxième partie de sa vie, quand il sera un artiste de cour, hein, on peut dire, il y a un souci du personnel qui va jusqu'aux gagistes. Hein. Les gagistes, c'est des travailleurs à la journée qui font des missions subalternes dans les théâtres, hein, qui sont assez peu considérés généralement, qui font vraiment partie des coulisses parmi les coulisses. Et Molière est connu pour avoir une attention, une prévenance à l'égard aussi de ces catégories de personnel, et donc de tout finalement le collectif d'artistes et de techniciens et de régisseurs qui gravitent autour de lui. Donc la conjonction entre ses qualités de manager et ses qualités de gestion des ressources humaines font de lui véritablement un directeur de troupe tout à fait exceptionnel. Là encore, assisté de Madeleine Béjart, dont les qualités, le sens des affaires sont connus. On a là aussi de nombreux témoignages de l'époque et qui va, pendant toutes ces années, prendre une part active aux décisions de la troupe également.
Mon vieux rêve, vous le savez, c'est Paris. Or, pour réussir à Paris, il me faut une bonne troupe. Je l'ai. Un bon répertoire, je l'ai aussi. Et tout cela ne suffit pas. Pour le faire notre place, il nous faut une protection superbe.
Quelle motivation pousse Molière et sa troupe à remonter à la capitale ?
Double motivation. D'une part, les choses sont plus aussi favorables en Languedoc. Conti, le prince de Conti.
Qui est-il, en trois mots ?
C'est le frère cadet du Grand Condé. Donc ce sont des Bourbons, ce sont des cousins du roi, ce sont des princes du sang. Et il se convertit, comme on dit, au XVIIe siècle. C'est-à-dire qu'il renonce à tout. Il renonce aux centaines de milliers de livres qu'il a reçus, parce que quand il était jeune, on voulait en faire un prince d'église, peut-être un pape, et donc il avait plusieurs abbayes, il recevait des centaines de milliers de francs, en fait, ce qu'on appelait des livres à l'époque, plutôt que des francs. Et il rend tout.
C'est la dévotion.
Voilà.
L'état de la foi où je me trouve, l'ordre de la vérité et la loi de la discipline chrétienne condamnent absolument le divertissement des spectacles. Car la volupté a un si grand pouvoir sur les hommes. Je me damnais avec votre secours. Vous précipitez en enfer tous ceux qui vous écoutent et qu'enchantent vos grimaces, qui blasphèment le saint nom de Jésus.
Il renonce au théâtre parce que le théâtre est un plaisir honteux.
Condamné.
Et il demande à la troupe de renoncer au titre de troupe de son Altesse, le prince de Conti.
Donc Molière est chassé, en fait.
Il ne s'est pas chassé, mais il fait voter par le... C'est lui qui préside désormais les États. Et il fait voter par l'Assemblée de décembre 1656 un édit, promulguer un édit comme quoi les députés pourront continuer à aller assister à des pièces de théâtre, mais ils paieront leur place. Et plus jamais, il y aura des subventions. Donc, ce qui fait que la manne qui, chaque année, tombait pendant les mois où il passait, les deux mois, trois mois dans le Languedoc, c'est terminé. Et ils s'aperçoivent qu'au moment, donc, en 56, début 57, où la manne se tarit, que Pâques 57, c'est la fin de la saison théâtrale. Pendant un mois, c'est le carême, donc plus de théâtre, tous les théâtres sont fermés.
Donc tous les ans à Pâques, on ne joue plus au théâtre. Hein.
Tous les théâtres sont fermés juste avant Pâques. Mm-hmm. Et on recommence...
Pendant le carême, donc.
Voilà. Et pendant la mi-carême de 1657, le théâtre du Marais, la troupe s'est débandée. La salle du Marais est fermée. Du coup, puisque le Languedoc, c'est plus florissant, etc., on décide de tenter la chance. On hésite pendant l'été 57, et en 58, on s'installe à Rouen, c'est encore plus près de Paris. Et on négocie. Madame Béjart loue le théâtre du Marais. On a le contrat, hein, comme quoi elle le loue, mais très cher. Et puis, il se produit un événement extraordinaire. C'est que pendant cet été où ils sont à Rouen, ils jouent à Rouen, parce qu'à Rouen, c'était la troisième ville de France à ce moment-là, toutes les troupes de province traversaient Rouen. Il y avait deux jeux de pommes qui étaient en permanence transformés en théâtre. Hein. C'était plus des jeux de pommes, c'était les théâtres. Donc, il y avait tout le temps du théâtre à Rouen. Donc, c'est là qu'ils passent l'été. Et il se trouve qu'à la fin de l'été, chance inouïe pour eux, le jeune frère du roi de France, du plus grand roi du monde, Louis XIV, qui s'appelle Philippe d'Anjou en ce moment-là, il a 18 ans. Et qu'est-ce qu'on fait pour le frère du plus grand roi du monde? Eh bien, on va lui acheter un château à la campagne, le château de Saint-Cloud. Eh bien, on va lui acheter un an et demi plus tard, on va lui mettre à disposition un an et demi plus tard, lorsqu'il sera marié, le palais royal, le palais cardinal, le palais construit par Richelieu, palais royal, et il lui faut une troupe de théâtre. Et qu'est-ce qu'on cherche? Eh bien, la troupe la plus prestigieuse, elle est justement là, elle vient de louer le théâtre du Marais, elle s'apprête à vouloir passer l'hiver à Paris pour tenter de s'installer. Eh bien, on conclut avec elle.
Venez vite, monsieur Molière, le frère du roi vous attend.
Il est intéressé?
Oh, plus qu'intéressé, impatient. Depuis une semaine, il ne parle que de vous. Si j'avais su vous joindre, je vous aurais fait signe plus vite. Oh.
Ça devient la troupe de monsieur frère unique du roi. Du coup, on lui donne un théâtre gratuit dans les bâtiments du roi. C'est le Petit Bourbon, sur le quai de Seine, là. Ça a été détruit, actuellement, il y a la colonnade du Louvre. Hein. Et donc, la troupe de monsieur, elle est très contente d'avoir un théâtre gratuit, et non pas très cher comme l'était le Marais.
L'affaire est lancée.
Mon cher Molière, redressez-vous, voyons.
Monsieur, je suis tout vôtre.
Quelle petite drôlerie êtes-vous en train de nous préparer?
Eh bien...
Serait-ce une farce, une de ces farces désopilantes dont vous avez le secret?
Non, pas une farce, pas exactement.
Une comédie romanesque alors? Une de ces comédies à l'espagnol, aux rebondissements incessants?
Ma foi, ce ne sera pas cela non plus.
Y sera-t-il question d'un naufrage? J'adore les histoires de naufrage.
Point de naufrage, j'en ai peur. Pour ne vous rien cacher, je pensais faire une surprise à votre Altesse.
Bien, fort bien. Nous adorons les surprises. Mais rassurez-moi, il s'agira bien d'une comédie, n'est-ce pas?
Évidemment, votre Altesse. Évidemment.
Ce qu'il y a de nouveau dès qu'il s'installe à Paris, c'est qu'il arrive avec un petit répertoire. Avec déjà deux comédies en cinq actes qui ont été créées en province, L'Étourdi et le dépit amoureux. Et donc, c'est quelqu'un qui déjà rayonne sur sa troupe. Il est déjà un excellent acteur tragique. Il est déjà un excellent acteur comique qui joue le rôle du valet Mascarille dans ses deux pièces, donc un valet à l'italienne. Et en plus, c'est lui qui écrit les pièces. Et on s'aperçoit que cet homme-là a quelque chose d'en outre que n'ont pas les autres. C'est qu'il passe pour un bel esprit, un homme d'esprit. Cette réputation, il se l'est forgée dès ses entretiens en 1653 avec Conti dans le château de la Grange des Prés. Et quand il arrive à Paris, il est précédé d'une réputation de bel esprit. On sait qu'il est en train de traduire un poème illustre de Lucrèce qui s'appelle « De natura rerum », de la nature des choses.
Itinim potium di tempore in ipso.
Qu'il est en train de le traduire mi-vers, mi-prose, de façon à la mode élégante. Et cet homme-là, c'est un homme exceptionnel. Il est capable de discuter philosophie, il est capable de discuter littérature et poésie avec Conti, qui était un puits de savoir, le prince de Conti, il était réputé pour ça. Et il arrive avec tout ça, avec des pièces, avec une troupe, avec un rayonnement, avec une qualité d'acteur exceptionnelle. Voilà, il arrive précédé d'une réputation exceptionnelle.
Cette réputation enchante le frère du roi.
Mon frère a ses ministres, ses soldats, ses financiers, dit-il. Moi, j'aurai mes acteurs.
Il en est très fier, au point qu'il propose à son aîné de venir assister à une petite pièce jouée par Molière et sa troupe.
Messieurs,
dans un salon du Louvre.
Le roi, le roi.
Marie, mon costume.
Allez, 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 allez.
Molière, j'attends.
Musique, maestro.
Nous sommes en octobre 1658 et la légende raconte que Molière aurait d'abord choisi d'interpréter Nicomède de Pierre Corneille pour démontrer au roi ses grands talents de tragédien.
Ah, que le coup est grand dont je suis atterré.
On dit ensuite que l'accueil fut glacial, le roi crispé, et les comédiens parisiens présents dans la salle se seraient cruellement moqués de Molière, qui lui aurait eu une idée de génie, se lancer à l'improviste dans l'interprétation d'une petite farce qu'il avait écrite en province, provoquant l'hilarité du roi. Le coup était sauvé, Molière était né à la cour. C'est très beau, mais a priori, tout ça est faux. Molière, rusé, aurait choisi dès le départ de jouer une petite comédie de 20 minutes avec laquelle il régalait les cours de province. Une manière subtile pour lui de déployer devant le roi l'étendue de son génie comique et corporel.
Et donc le roi rit. Il a 20 ans. D'un jeune homme, il rit à cette comédie.
Monsieur Molière, vous avez beaucoup diverti, monsieur.
Et du coup, il dit, bah, pourquoi pas à Paris ? Or, à Paris, il y a un théâtre qui est occupé par les comédiens italiens de Scaramouche. C'est le théâtre du Petit Bourbon.
On dit que le roi leur donne le Petit Bourbon en partage avec les Italiens.
En partage ?
Je leur souhaite du plaisir.
Et c'est là, donc, il va donner à Molière la possibilité, avec sa troupe, de s'installer au Petit Bourbon en alternance avec les comédiens italiens de Scaramouche.
Encore Scaramouche ?
Toujours Scaramouche, plus que jamais Scaramouche. Peu à peu, derrière ce nom magique qui déchaîne mille rêveries, je découvre un homme de chair et d'os. J'entrevois toute une vie théâtrale que j'ignorais.
Ah, bah tant mieux. Alors on continue ?
Oui, on continue. Ah.
Et avec Scaramouche, Molière va encore apprendre, car Scaramouche est un des plus grands comédiens italiens de son temps.
Monsieur Scaramouche, vous avez devant vous votre plus fidèle disciple.
Jacqueline Razgonikoff, selon vous, qu'est-ce que Molière a apporté à la vie de troupe, à l'esprit de troupe? Est-ce qu'il a apporté des choses inédites au XVIIe siècle?
Je le pense. Je pense qu'il a, appris surtout la manière de travailler ensemble. Parce qu'il a utilisé toujours, dans toute sa carrière, il a utilisé les défauts et les qualités de ses comédiens. Il les observait, il leur demandait de faire ce qu'ils savaient faire. Et comme le départ des pièces, il faut bien se dire que le départ des pièces n'est pas une pièce de cabinet. Molière n'est pas un écrivain de cabinet.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ben, il n'est pas assis à sa table en train d'écrire tout seul. Il est sur un plateau. Il a des comédiens. Il les fait bouger. Il leur fait dire des choses. On voit comment il travaille avec ses comédiens.
Il travaille sur le motif, comme
vraiment
on dit.
Vraiment sur le motif, tout à fait.
Lorsqu'il revient à Paris, à la tête de sa troupe, en 1658, le jeune loup était-il déjà dans la peau d'un chef de meute ?
Oui, parce que sa meute, il l'a. C'est ça qui est très intéressant. Si on revient un tout petit peu en arrière, très rapidement, on s'aperçoit que lorsqu'ils partent avec la troupe du duc d'Épernon, dirigée par Dufresne, qui a 4 ou 5 acteurs de renom déjà dans le gros du parc, dans quelques autres, eh bien, assez vite, il arrive avec Joseph Béjart, Madeleine Béjart, Geneviève Béjart, elle était nulle, mais elle était là quand même, et bientôt le petit Louis Béjart qui arrive avec maman qui suit. Et il se trouve que très vite, ils vont être tous des acteurs à part entière. Vous savez que l'expression « être à part entière », ça veut dire qu'on reçoit une part entière de la recette de la troupe, une fois enlevés les frais
généraux,
on partage la recette en autant de parts qu'il y a de membres de la troupe. Mais, quelquefois, les débutants, les enfants, sont à demi-part. Mais là, ils sont tous à part entière. Et comme ils sont tous à part entière, ça veut dire qu'ils partagent, mais qu'ils votent. Molière n'a jamais eu plus d'une voix dans les délibérations de la troupe. Et évidemment, avec son aura, quand il avait un avis, on suivait. Et surtout, il avait le clan. Le clan, c'était le groupe des Béjart. Et après, ce groupe des Béjart, il est augmenté d'une actrice vedette qui s'appelle Catherine Debris, qui va créer Agnès dans l'École des Femmes. Il va être augmenté d'une actrice vedette qui s'appelle Marquise du Parc. Et ce petit groupe-là, qui va former un noyau autour de Molière, fait que c'est un vrai clan.
En conclusion de ce deuxième épisode, on peut dire que la vie sur les routes du royaume de France a façonné la troupe de Molière. 12 années à construire ses réseaux, à gérer la concurrence, à forger un répertoire et à appréhender les réactions du public. La troupe de Molière revient à Paris aguerrie, prête à embrasser la gloire. Par ailleurs, si on dit la troupe de Molière, il ne faut pas oublier que son destin n'aurait jamais été le même sans Madeleine.
Madeleine Béjart, mon actrice favorite.
Madeleine Béjart, pygmalionne d'un jeune bourgeois, fils de tapissier. C'est l'horizon du prochain épisode.
Qu'est-ce que tu en dis, toi, jeune comédienne? Tu as l'air toute rêveuse, hein?
Ah, c'est que je pense à Madeleine Béjart.
Madeleine Béjart, oui. Madeleine Béjart, vois-tu, c'est la patronne de toutes les comédiennes.
Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Toute notre équipe vous remercie pour votre attention. Bon après-midi.
Molière, Le chien et le loup. Un récit de Philippe Collin, réalisé par Violaine Ballet. Assistance éditoriale, Estelle Gap. Documentation sonore, Clarie Monac. Mixage, Vincent Godard. Prochain épisode, Madeleine Béjart, L'audace en bandoulière. Molière, Le chien et le loup est un podcast original de France Inter avec la Comédie Française.